Vous écoutez
RMC.
RMC. L'After Foot.
Timothée Mémon.
On est de retour dans l'After, on continue avec nos drôles de dames à faire le tour d'Europe, mais on va aussi aller en Normandie, à Caen, puisqu'il y a un match de Ligue 2 entre Caen et Metz, et c'est Christophe Lécuyer qui va nous le faire vivre. Salut Christophe.
Salut, bonsoir à toutes et à tous.
Le coup d'envoi imminent entre deux formations qui visent très clairement l'accession en fin de saison.
Oui, deux formations qui ont très bien débuté leur saison d'ailleurs, puisque le FC Metz est bien étrié à Amiens le week-end dernier sur le score de 3-0. Dans le même temps, Caen est allé s'imposer à Nîmes 1-0. Caen qui n'a perdu que 3 matchs à domicile contre une équipe reléguée. Ça fait partie des stats que l'on retiendra avant le coup d'envoi de cette rencontre. On verra évidemment si elle se confirme ce soir ou non. Très belle affluence hein, ce soir messieurs à Dornano, quasiment 16 000 supporters. C'est vraiment une très très belle affluence pour un match de Ligue 2. Mais c'est vrai que c'est l'été, il fait beau en Normandie comme d'habitude, et c'est une belle affiche pour cette rencontre ce soir, dont le coup d'envoi sera donné dans une poignée de secondes.
Tu nous appelles évidemment s'il se passe quelque chose dans cette rencontre. On continue à faire le tour d'Europe et à s'intéresser à ce qui s'est passé sur les différentes pelouses. Je voulais rester encore un petit peu en Italie. On vient de parler sous un prisme assez négatif de la Juve. Il y a quand même des bonnes nouvelles en Italie avec une ferveur renouvelée pour le foot italien. On avait pris l'habitude dans les années 2000 notamment de voir des stades remplis à 30-40%, et là Johan, il y a de nouveau une ferveur.
Ouais, parce qu'il y a des équipes qui, ou des clubs qui ont installé des projets assez séduisants. Je pense à Milan maintenant, je pense à l'Inter où c'est toujours assez intéressant. La Roma de Mourinho évidemment, alors, c'est un projet assez court-termiste, finalement, même s'il y a des jeunes joueurs qu'il faut continuer à faire progresser. Mais on a eu des premiers chiffres d'abonnement. Alors, on n'a pas tous les clubs. Naples n'a pas communiqué encore pour l'instant, par exemple. Mais on a 40 000 personnes abonnées, un peu plus de 40 000 à l'Inter à Milan. On a presque 40 000 à la Roma, 100% des abonnements vendus. On a plus de 20 000 à Florence et à la Lazio, malgré le discours de Lotito. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais Claudio Lotito, ce génie de président de la Lazio, qui avait quand même, il y a quelques semaines, dit « Ouais, bah regardez, à la Roma, eux, ils s'abonnent, nous, on a 8 000 abonnés, qu'est-ce que nos supporters, ils attendent, etc. » Donc, ça passe toujours très bien, les comparaisons avec le rival.
Ça a dû plaire, ouais.
C'est toujours très, très intelligent.
Est-ce que ça a eu un effet ?
Je pense pas, non. Je pense que les supporters ont un tel point de désaccord avec Lotito que quoi qu'ils puissent dire, finalement, ça ne les atteint pas trop. Et puis on a 20 000 personnes à Lecce, par exemple, qui est promu en Serie A. Donc il commence à y avoir des stades toujours aussi vétustes, ça bouge pas évidemment, mais un vrai retour du public dans les stades, et ça c'est plutôt sympa. Et pour rejoindre ce qu'on disait juste avant sur la Juve, une des déceptions en termes d'abonnement, c'est la Juve, un peu plus de 22 000 personnes.
Ah oui, c'est fait.
Vous donner une idée, c'est 70% par rapport à la dernière année sans Covid, donc 2019-2020.
Oui.
Donc,
puis 22 000 comparativement aux 40 000 à l'Inter et à Milan, effectivement, c'est.
Ouais, ils doivent être à 37, je crois, ou 36 ou 37 à la Roma. C'est pas énorme, mais bon, peut-être que ça n'a rien à voir avec le jeu proposé par Max Allegri, peut-être que Agnelli verra la nouvelle, ou peut-être pas, parce que ça se trouve, Agnelli, il est encore en train de nous pondre des études pour nous montrer que les jeunes s'intéressent plus au foot, hein. On sait pas, hein.
Tu vois une autre raison que les projets dont tu as parlé pour expliquer ce regain d'amour, en fait.
Il faut prendre au cas par cas, quasiment. C'est-à-dire que Lecce, il y a l'enthousiasme du monté. On sait que c'est un peuple assez chaud et que ils ont vraiment souffert d'être en série B. Et globalement, quand ils sont en série A, c'est toujours bien rempli. Le Via del Mar, c'est un des plus vétuste stade d'Italie, hein. Honnêtement, ça vaut le détour, hein. Juste pour le côté historique, archéologique, quasiment, ça vaut vraiment le tour. Mais c'est plutôt génial. L'Inter, c'est évidemment parce que il y a l'enthousiasme aussi qui est revenu avec le titre avec Conte. L'année dernière, il y a eu des premières bonnes performances en Ligue des Champions. On rajoute des Lukaku qui revient là. Donc, il y a quand même une équipe très sympa. La Roma, c'est l'enthousiasme Mourinho, Conference League, Dybala, Wijnaldum, etc., etc. Milan, ils sont champions en titre. Donc, c'est lié aussi au résultat, on va pas se mentir. Il n'y a pas que les projets, il y a aussi le fait d'être dans une bonne passe ou une mauvaise passe.
La dynamique.
San Siro, quand Milan jouait avec Bilia, Bertolacci,
c'était différent, on va dire.
Ouais. Et compagnie, il y avait un peu moins de monde, mais c'est logique en fait. Donc il y a évidemment une part de clubs qui performent bien et qui sont de retour au plus haut niveau. Je pense aux clubs milanais qui ont vraiment galéré pendant des années et des années. Et puis il y a des projets type Roma où c'est vraiment l'enthousiasme de dingue, parce que c'est un peuple qui est comme ça et que
mais c'est une bonne chose, ça, pour le championnat.
Ouais,
c'est une bonne chose que les trois clubs comme la Roma et les deux Milan soient sur une très belle dynamique, ouais, et qu'il y ait un engouement et qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un frémissement.
Mais de toute façon, pour la Serie A, il faut que tes trois clubs du Nord, ils soient forts. C'est évident parce que, ok, en Europe, la Roma fait de bonnes choses. Hein. La Roma, c'est la deuxième équipe au ranking UEFA italienne sur les cinq dernières saisons. Ils font quand même deux demi-finales de Coupe d'Europe et une finale donc ils gagnent en Conference League.
Celle quand ils sortent le Barça et qu'ils font contre Liverpool.
C'est ça, contre Liverpool. Et l'autre, c'est la demi-finale contre United en Europa League où ils prennent 6-1, 6-2.
C'est ça. Plus la Conference League l'année dernière.
C'est ça. Mais c'est sympa la Roma. Mais bon, ils ont gagné la Conference League, etc. Mais ceux qui sont en capacité de gagner avec des champions dans l'histoire et de manière plus générale en Italie, c'est les trois clubs du Nord et personne d'autre. Donc il faut des clubs forts, ça c'est clair. Et il faut des clubs où il y a de l'enthousiasme. Et même pour la télé, c'est tout bête, hein. Mais on sait déjà que c'est extrêmement mal filmé, que les stades sont vétustes, que les pelouses sont pourries. Donc si en plus il y a des stades vides, à la télé, c'est pas bon. C'est pas bon pour vendre les droits à l'international, c'est pas bon pour même vendre des droits au niveau national. Et là, d'avoir des stades qui vont être pleins, colorés, etc. Je peux vous dire que DAZN, hier, ils étaient bien contents de diffuser le dernier match amical de la Roma avec 65 000 personnes et avec la présentation de l'équipe.
Alors, on va rester sur le thème des supporters. On va peut-être retrouver Polo. Polo, il y avait un derby berlinois qui aurait pu être chaud, qui finalement s'est passé dans de bonnes conditions, entre l'Union Berlin et le Hertha. Le Hertha qui, on le rappelle, est passé aux mains d'un président, enfin qui a été élu en tout cas, qui a été ultra dans sa jeunesse. Le derby s'est bien passé. C'était d'ailleurs plutôt un match intéressant.
Alors, c'est la dernière, je vous ai quitté lorsqu'on avait fait une émission spéciale sur le Cave Bernstein, donc le nouveau président ancien ultra du Hertha Berlin, en me disant, et j'avais parlé du calendrier du Hertha qui était démentiel pour le début de saison 2022-23, avec une première journée de Bundesliga avec le derby contre l'Union Berlin. C'était très dangereux puisqu'on ne savait pas comment les ultras berlinois et les ultras berlinois en particulier et les ultras de l'Allemagne en général allaient réagir lors de cette première journée. Et c'est étrange parce que j'ai le sentiment qu'il y a des consignes qui sont passées tellement ce derby berlinois a été calme déjà parce que l'Union Berlin, mais ça c'est pour ma glorieuse personnelle, a dominé de la tête et des épaules le derby.
On rappelle que tu es quand même toi aussi d'une certaine manière la tête de l'Union Berlin.
Ouais, je suis une petite part, je suis une cellule voilà, parmi d'autres de l'Union Berlin. Et c'est vrai que c'était impressionnant parce que les supporters berlinois du Hertha qui sont venus à l'Alte Forsterei étaient extrêmement calmes. Évidemment, il y a eu quelques bengalos, quelques petites choses comme ça, mais
les feux de Bengale plutôt.
Mais c'était les feux de Bengale, pardon. Oui, je disais ça en allemand. Et et c'était pas.
En français, pas bien c'est dangereux, pas tout à fait la même chose.
Oui, tout à fait. J'étais en train de réaliser ce que je venais de dire en direct. Et là, il n'y avait pas eu d'envahissement de terrain, etc. Ça a été d'un calme olympien, si tu veux, ce qui était surprenant. Et je me demande même s'il n'y a pas des consignes qui ont été passées, parce que tu imagines bien qu'un nouveau président de club élu par les Mitgliedern, les membres de l'association du Hertha Berlin pour 2 ans, et on commence par un derby où lui, d'ailleurs, à son époque, avait été interdit de stade parce qu'il avait fait quelques petites choses dans les travées de l'Olympiastadion notamment, et ben tu te rends compte que ça a été calme. Donc je me demande s'il n'y a pas des consignes qui ont été passées entre le président du Hertha et les associations de supporters du Hertha pour que ça se passe très très bien. Malheureusement, le Hertha a les mêmes problèmes que l'année dernière. Je parlais du projet du Big City Club l'année dernière, je rigolais un peu en disant que c'était le Big City Club tellement l'argent, ils ont fait n'importe quoi. Et si tu veux, autant le derby est important parce que c'est la 4e victoire à la suite de l'Union Berlin, dont la 3e en Bundesliga contre l'Hertha. Mais c'est quand même dramatique quand on voit la puissance du Hertha par rapport au petit Union Berlin de faire la prestation qu'ils ont faite samedi à 15h30. Donc voilà, c'est passé. On va dire que c'est calme parce qu'on savait pas ce qui aurait pu se passer dans les tribunes. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, sportivement parlant, Freddy Bobic, qui était invité d'ailleurs de l'émission d'Opel Pass ce dimanche, eh ben, il a du boulot et je pense que le Hertha Berlin est un véritable candidat à la relégation cette année, c'est-à-dire que là, ils ont été éliminés en Coupe d'Allemagne contre une équipe de deuxième division, ils se prennent une raclée, même s'il n'y a que 3-1, mais en fait, alors, je vous cite un exemple, je crois que c'est dans la Zut Deutsche, il disait, c'est dommage qu'on soit dans le football, parce que si on était à la boxe, l'arbitre a la possibilité d'arrêter le match pour une question de chaos technique, tu vois, parce qu'au bout d'une heure de jeu, et là, on a été forcé de tenir 30 minutes en plus, donc évidemment, le Hertha a réduit le score à 3-1. Notez le premier but de Zibaccio aussi, l'Américain qui était passé par Rennes notamment pour l'Union Berlin. J'ai très très peur quand même que pour le Hertha Berlin, la saison va être assez dramatique. Ils ont un calendrier très très difficile.
Polo, tu parles de consignes qui auraient été passées. Est-ce qu'on n'est pas aussi en droit de penser que quand on a des gens, des tribunes au plus haut niveau des clubs, ça peut aussi peut-être aider les choses à bien se passer. Ça peut déjà peut-être aider les consignes à passer, tout simplement.
On est d'accord, mais le problème, c'est qu'on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. C'est-à-dire que l'année dernière, il faut bien se rendre compte, l'élection
Kevertine, il sait bien qu'il peut pas arriver et essuyer une bordée d'ultra déchaînée. Et donc forcément, tu as raison, il a peut-être fait passer des consignes, mais c'est peut-être bon signe, c'est peut-être un bon système que d'intégrer les ultras dans le plus au niveau des clubs.
Tout à fait, mais il faut bien comprendre que l'élection de Kai Bernstein a été quand même une énorme surprise. Au Hertha Berlin, il n'était pas le favori. Il se fait qu'il y a des personnes, il y a beaucoup de politique, évidemment, lorsque vous êtes dans un système associatif. Et vous imaginez bien, parce que la plupart, on avait parlé en privé il y a un peu plus d'un an, mon cher Timothée, sur ces questions-là. En général, tu sais très bien que c'est des grandes familles ou des grandes puissances financières, économiques qui se retrouvent à la tête des clubs, pas forcément avec des grands moyens financiers, mais ils représentent la région. Ce sont des gens qui sont importants et ça peut être, ils sont notamment souvent membres du CDU, du SPD, donc de la gauche et de la droite très classique allemande. Et là, il arrive à ce moment-là, et si tu veux, c'est qu'au-delà de la victoire de Kaberstein et du président ultra, c'est la défaite de l'establishment et de ce qui avait le modèle, on va dire, allemand, où on devait négocier avec la Ligue allemande, etc., où il fallait voir les droits télé. Or, on ne pouvait pas avoir un bazar organisé, si tu veux, parce que la Ligue aurait évidemment réagi, parce qu'évidemment, les diffuseurs comme Sky et DAZN n'auraient pas été contents, etc. Alors, en l'occurrence, c'est Sky pour le samedi et pas DAZN, mais c'est vraiment important, si tu veux, que le Hertha Berlin montre qu'on peut avoir un président ultra, mais qu'il soit aussi aux responsabilités, mais parce que là, il est de l'autre côté de la barrière. Il est pas, il peut plus râler. Il n'est pas dans une logique de râler. Il doit gérer un club et on sait que gérer un club, ça donne souvent la migraine, quoi, vu les problèmes qu'on a. Donc, comme le club ne va pas bien et que c'est le club de la capitale, enfin, l'Olympiastadion, c'est 75 000 places, faut pas l'oublier non plus, même s'il n'est pas toujours rempli. Mais c'est pas possible que ce soit le bazar et que le club redescende en seconde division. Or, la saison, combien de temps les supporters vont être calmes? Alors, l'année dernière, ça a été chaud, hein. Rappelez-vous, pendant un moment, ils ont forcé les joueurs à enlever leur maillot, à se mettre à genoux devant leur maillot, etc. Il y avait des choses qui ont été un peu choquantes, là, ce qui s'est passé à l'Olympiastadion. Donc, il y a évidemment tout ce qui se passe dans les tribunes. Et puis, Johan parlait des abonnements en Italie. Je rappelle quand même qu'on est dans un pays hors pandémie, évidemment, où chaque année, on arrête les campagnes d'abonnement tellement il y a de demandes. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui fait partie du spectacle où le supporter de base fait partie complète du football allemand. Donc, si les ultras font le bazar, comme c'est en ce moment un peu le cas du côté de Francfort, voire du côté d'Hambourg, et en seconde division, et que ça se passe mal, tu peux faire exploser un club complètement. Tu peux avoir un président finalement qui n'a pas de puissance financière personnelle, parce que rappelons qu'il y a un investisseur, Lars Windhorst, qui est soumis à
50+1.
Mais oui, on sait que c'est compliqué, toutes ces choses-là. Donc voilà, moi ce que je vois, c'est que sportivement, ça tourne pas. Par contre, le derby s'est très très bien passé, alors que il y avait des risques, honnêtement, parce que là, ça chauffait, que c'est quand même la quatrième victoire de l'Union de Berlin. Donc, en gros, c'est le petit Pousset qui l'emporte contre le gros balèze, hein. Faut être parfaitement conscient de ça. Mais ça s'est bien passé. Donc, ok, la première journée est passée. Mais je rappelle que le calendrier de Hertha Berlin, de mémoire, ils doivent recevoir bientôt le Borussia Dortmund. Ils vont à Mönchengladbach, ils reçoivent Leverkusen. Enfin, ça va être très, très dur pour ce début de saison.
Ouais, ça va être chaud. En tout cas, on a envie de suivre ce qui va se passer du côté du Hertha sur et en dehors du terrain. Un rapide tour par Dornano pour le match entre Caen et Metz. Il y a une histoire de pigeon.
C'est incroyable. 13 minutes de jeu à Dornano, 0-0. Effectivement, le jeu a été arrêté à quelques instants. C'est assez surréaliste parce que il y avait un pigeon dans la surface de but d'Alexandre Oukidja. L'arbitre a dû arrêter temporairement la partie pour qu'on évacue le pigeon de la pelouse. Pigeon qui était quelque peu sonné,
oui,
et qui a pu
sonné.
Reprendre sa place au pied du Malherbe Normandie.
J'ai l'impression que Mandrea était pas loin de lui marcher dessus, il me semble-t-il. Oukidja qui était pas loin de lui marcher dessus.
On a failli assister à un drame, effectivement.
Toujours 0-0 après 13 minutes de jeu. L'after revient pour la deuxième heure avec les drôles de dames.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.